Déjeuner. Alors, je propose que nous passions tout de suite aux questions qui peuvent, ouais, voilà, qui surgissent déjà. Je ne sais pas si les micros sont. Anne-Laure, c'est au fond à droite. Ouais. Juste une petite question de curiosité. Quelles étaient les alternatives au titre Le modèle noir? Vous avez évoqué beaucoup de.
Alors, les alternatives, il y avait la question du singulier ou du pluriel, mais on a choisi le singulier parce qu'il y avait le double sens du mot modèle, étant un modèle d'artiste, mais aussi un modèle érigé en modèle sur lequel on puisse s'identifier. Donc, mais effectivement, le titre a fait l'objet de pas mal de débats en interne et c'était, on va dire, le moins mauvais.
Bonjour, merci pour vos interventions. Vicky Buring, élève conservatrice. Toujours sur la question du titre et des titres, je voulais savoir si la réflexion de changement des titres a été étendue au reste des collections et si la réflexion qui a été faite dans le cadre de l'exposition a été conservée par la suite pour le retour dans les collections permanentes. De mémoire, ce n'était pas le cas tout de suite, parce que ça a changé depuis. Et également dans les cartels, puisqu'il y a certains titres certains mots vous en avez parlé, par exemple mulâtresse, etc., qui ont justifié un changement de titre, mais qui étaient présents dans les cartels. Donc, est-ce qu'il y avait une réflexion sur ça? Et sur la postérité de cette exposition pour le musée d'Orsay, concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour le musée d'Orsay et pour les méthodes de travail, puisque l'appel au comité scientifique était une chose exceptionnelle ici. Et une deuxième question. Vous n'avez pas trop développé ce point de pourquoi faire une exposition sur le modèle noir. Vous avez évoqué Denise Murel qui parle très bien de la jeunesse de son travail à elle. Ça vient d'une indignation. Je voulais savoir du coup pourquoi faire cette exposition au musée d'Orsay. Est-ce que ça peut constituer ou ouvrir la voie à une forme de réparation qui passe notamment par la visibilité. Enfin, c'était des questions évoquées dans le catalogue notamment, mais sur lesquelles vous pourriez peut-être revenir.
Alors oui, sur la question des titres, la volonté était effectivement de conserver ces titres au-delà de l'exposition, de les pérenniser, d'étendre cette réflexion et ces changements à l'ensemble des collections qui pouvaient être concernées, de poursuivre aussi nos recherches sur l'identification des modèles. Je pense aussi par exemple au cartel développé lié à Olympia qui est actuellement en salle, que j'ai rédigé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps parce qu'on n'avait plus de cartel développé dans la salle Manet. Et effectivement, il était impensable de ne pas parler de l'or dans le cartel développé, bien qu'il soit très court, je crois que c'est 500 signes. Voilà, c'était un des exemples qui pourrait illustrer cette postérité de l'exposition dans le traitement des collections. On a aussi beaucoup. Alors je ne sais pas si vous êtes allé récemment au musée, mais on a souhaité remettre en valeur les collections dites orientalistes qui étaient auparavant peu ou pas présentées, en leur accordant toute la galerie Lille, avec un nouveau mode de présentation, des nouveaux panneaux de salle, etc. Il y a une série de séminaires également au musée d'Orsay et des posts sur Instagram qui ont été initiés par Pierre Singaravelou qui a donc à partir de cela rédigé un ouvrage qui s'appelle Les Mondes d'Orsay, où alors toutes les collections du musée sont vues, étudiées à travers le regard de différents spécialistes. Donc ça fait l'objet de publications sur les réseaux sociaux, mais aussi de conférences qui sont données à l'auditorium. Je ne sais plus, parce que vous m'avez posé plusieurs questions.
Est-ce qu'il y avait l'idée d'une forme de réparation, en
Ah
fait,
oui.
le choix de programmer cette exposition au musée d'Orsay?
Oui. Alors le choix, c'est vraiment un choix de Laurence Descartes, hein, la présidente du musée d'Orsay, qui souhaitait vraiment effectivement voir cette exposition qui ait lieu dans un musée des beaux-arts et pas dans un musée d'histoire. C'était important aussi de reconsidérer finalement des œuvres absolument incontournable, je dirais, de l'histoire de l'art, et notamment Olympia en est l'exemple emblématique de la construction de l'histoire de l'art de la modernité sous un angle à travers lequel il n'avait jamais été étudié, du moins dans un musée de beaux-arts. Et donc c'était un premier pas qui était vraiment... Alors, je dis dans un musée de beaux-arts, mais étroitement conçu en lien avec des historiens, avec les archives nationales, enfin, qui liaient vraiment œuvres et documents. Et on partait vraiment de la question des modèles, enfin, des personnes et de parcours individuels pour justement remettre en lumière certaines histoires bien précises qui ont contribué à une histoire plus générale. Voilà.
Bonjour. Dans la continuité de la question, j'ai poussé peut-être encore un petit cran. Est-ce que ça a changé pour vous quelque chose? Parce que vous avez commencé par dire, bon, ben voilà, mon parcours, c'est cela. Je me suis collée à la question de l'appropriation culturelle plus précisément à ce moment-là. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans votre vision en tant qu'historienne de l'art d'une histoire qu'on a tous hérité, une histoire linéaire, où la question des personnes, la question des communautés, voire les communautés d'origine ne sont pas du tout enseignées dans l'histoire de l'art, hein, dans les universités ou à l'école du Louvre, ça commence à changer. Mais qu'est-ce que ça a changé pour vous en tant que conservatrice à Orsay?
Oui, ça a changé beaucoup de choses. Alors peut-être pas du point de vue de l'appropriation culturelle, je ne sais pas si vous m'entendez, justement. Je dirais que... peut-être paradoxalement, je ne sais pas, mais enfin, j'ai abordé ce sujet de la même manière au départ que tous les sujets sur lesquels je travaille, justement avec un énorme travail de recherche, et j'ai notamment beaucoup travaillé sur des questions assez peu étudiées jusqu'alors des résonances de la guerre de sécession américaine dans l'art français des années 1860, puisqu'il y avait une coïncidence qui m'apparaissait très intéressante, à savoir que le salon dans lequel a été présenté Olympia, qui a ouvert au 1er mai 65, coïncide vraiment avec la fin de la guerre civile américaine, et que cette guerre civile américaine avait des retentissements très importants dans la presse illustrée et dans l'art français de cette époque. Donc j'ai vraiment essayé de travailler plutôt du point de vue des représentations au moment où les œuvres étaient produites, donc de retrouver tout ce contexte culturel et historique et artistique. Et après, oui, effectivement, c'est plutôt au moment de la production du travail et de sa réception par les publics, les visiteurs, c'était effectivement cette question de l'appropriation culturelle, elle a pu surgir plutôt à ce moment-là, mais je pense que c'était, pour rejoindre un petit peu l'intervention de Clara, qu'on a essayé de faire quelque chose vraiment de commun, où tous les regards à la fois des commissaires et du comité scientifique ont abouti sous la forme de cette exposition qui mêlait toutes ces recherches et tous ces regards. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds exactement, mais c'est vrai que effectivement, bah, par exemple, genre, cet exemple du cartel d'Olympia, qui est peut-être l'œuvre la plus vue au musée d'Orsay, peut-être que j'aurais pas pensé à parler de l'or avant l'exposition Le modèle noir, et là ça me paraissait impensable de ne pas l'évoquer, effectivement.
Merci beaucoup. Il y a une question au fond à gauche de Christian Autin. Je ne sais pas si on peut lui apporter un micro. Voilà.
Merci. Oui, c'est une question pour Clara Gavelli. Alors, dans votre conclusion, vous avez évoqué ces alternatives également insatisfaisantes et la possibilité de les dépasser. Vous avez fait allusion à des exemples inspirants dans le champ de l'immatériel. J'aimerais en savoir plus.
Alors, je ne me souviens pas si on... Vous m'entendez ?
Oui. Oui.
Je ne me souviens pas si on en a parlé ce matin, parce que j'ai eu des petits moments d'inattention. Est-ce qu'on a parlé des Creative Commons et... Non. Alors, dans le champ de l'immatériel, il y a notamment ce qu'on appelle le copyleft, qui est un exemple inspirant. C'est justement quand ça a été en réaction à l'extension de la propriété intellectuelle au domaine des logiciels. dans les années 80, Richard Stallman, qui est un développeur de logiciels, s'est opposé en fait à la privatisation des logiciels par le droit d'auteur. Et donc, il a continué à développer des logiciels et à déposer les codes sources dans le domaine public pour qu'ils soient de libre usage. Sauf que très vite, il a constaté que finalement, les entreprises reprenaient les codes sources des logiciels et recréaient par la suite de nouveaux logiciels et à poser leurs droits d'auteur dessus. Et finalement, donc, le constat, c'était que les mettre de libre usage, ça conduisait à une réappropriation par la suite. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé ce qu'on appelle le copyleft, qui serait en fait l'inverse du copyright, qui consiste à dire qu'avec son droit de propriété privée sur le logiciel, il constate que le logiciel est de libre usage, mais à la seule condition que l'usage qui puisse être fait par la suite ne recrée pas d'exclusivité. Et donc, si vous voulez, ça permet, grâce à la propriété privée, de retourner en fait le concept de propriété privée et d'imposer un libre usage qui soit viral par la suite. Et ça permet en fait de assurer une communauté de partage sans qu'il y ait cette crainte que le libre finalement soit réapproprié par la suite. Donc ça, c'est un exemple inspirant, disons. Mais si vous voulez, c'est pas vraiment transposable à la question de l'appropriation culturelle, déjà parce que il faudrait déjà au moins reconnaître une propriété pour qu'elle puisse être renversée, et ensuite aussi la question du copyleft pour les logiciels ne pose pas la question assez technique, disons, assez problématique des sujets de droit et des communautés. Il n'y a pas cette idée de gouvernance, c'est plus une communauté diffuse de partage, disons. Mais voilà, c'était ça la référence que j'ai faite.
Merci beaucoup. Je crois que Céline Romainville avait une question aussi.
Oui. Si, on m'entend. Ah, okay. Merci beaucoup pour vos exposés. Très intéressant. Moi, j'avais deux petites questions. Je me demandais, par rapport à l'appropriation culturelle et même quelque part aussi par rapport à l'exposition, dans quelle mesure il n'y a pas une autre branche du droit qui peut s'appliquer, qui est le droit de la non-discrimination ? Dans certains usages de ce patrimoine culturel immatériel, souvent des usages mal intentionnés, hein, je ne sais pas, par exemple des blackface au carnaval en Belgique, on en a eu quelques-uns, un autre droit, une autre branche du droit s'applique, c'est le droit de la non-discrimination, les actions en cessation des discriminations par la récupération considérée comme étant discriminante d'éléments du patrimoine d'une communauté. Et alors l'action est portée par un collectif ou par l'autorité administrative indépendante en charge de la lutte contre les discriminations. Et il me semble que ça, c'est évidemment un certain type d'appropriation culturelle. C'est pas l'appropriation culturelle à des fins de commercialisation, mais ça peut être peut-être aussi. Voilà. Donc je me demandais si vous traitiez aussi de cette question-là. Et la deuxième question, je me demandais, mais vraiment à tout hasard, si on voit se multiplier par rapport à l'environnement, notamment à la propriété de la terre agricole, qu'on a déjà fait des liens avec le droit de l'environnement dans la matinée, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi peut-être, pour les modèles alternatifs, à aller regarder dans les modèles alternatifs qui se développent dans la propriété foncière, en fait. Par exemple, les usages civiques en Italie, bon, bien sûr, c'est prévu pour des biens, plutôt pour des biens fonciers à la base, pour l'accès à la terre, les obligations, je crois que les obligations réelles en France. En Écosse, il y a aussi tout un système où il y a des collectifs qui ont une personnalité morale et qui ont des droits communaux par rapport à la terre. Bon, vous allez me dire, l'objet n'est pas le même, c'est clair, mais est-ce que il y a des liens entre le patrimoine culturel et naturel ? Est-ce que du coup, vous avez peut-être cette idée-là pourrait, ou alors est-ce que ce sont des modèles qui, parce que c'est trop différent, ne peuvent pas s'appliquer ? Voilà, c'est un peu ma question. Merci.
Je commence par votre deuxième question. Non, il y a évidemment des liens entre les questions justement de terre et même en matière d'écologie. Il y a quand même une différence dont j'ai pas eu le temps de parler, c'est que les ressources naturelles que l'on souhaite protéger, en économie, c'est considéré comme des biens rivaux, ce qui n'est pas le cas des biens immatériels. qui sont pas épuisables, disons, parce que justement par essence reproductibles. Donc c'est pas tout à fait les mêmes questions qui se posent, quand bien même on pourrait considérer que dans le cas des expressions culturelles traditionnelles, le fait de se les approprier et de les utiliser d'une certaine manière, ça les épuise parce que ça nuit à leur intégrité et à l'identité du groupe, même si on peut pas dire que ce sont des biens rivaux stricto sensu, de la même manière que des ressources naturelles. Et c'est vrai qu'en matière d'écologie, il y a tous les exemples que vous avez donnés, mais ça me fait penser aussi au fait qu'on ait reconnu la personnalité juridique à certains éléments de la nature pour justement trouver un nouveau moyen. Enfin, déjà, ça permet de changer de paradigme et d'être sur un autre paradigme que celui anthropocentré, mais ça a permis aussi de résoudre des conflits, notamment de pluralisme juridique. Par exemple, je pense au fleuve Wanganui qui a été dont on a reconnu la personnalité. Ça a permis aux communautés maoris et à la couronne justement de être reconnus comme gardiens, et donc d'une certaine manière ça a permis de aller vers plus de pluralisme juridique, parce que c'est un peu la question aussi que j'ai pas abordée par rapport à l'appropriation culturelle, mais ça montre qu'il y a des tensions en fait entre les systèmes juridiques occidentaux et d'autres systèmes normatifs marginalisés. Et d'une certaine manière, à travers la nature, on retrouve en fait les mêmes problèmes, parce que ces pratiques culturelles, elles s'inscrivent aussi dans une zone géographique que l'on veut protéger, etc. Donc oui, il me semble que les deux choses sont liées. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. La première question, qu'est-ce que c'est ? Je ne me souviens plus de la première question. Ah oui. Oui, alors c'est vrai, enfin, c'est pour d'autres types d'actes d'appropriation culturelle, c'est vrai qu'on pourrait partir sur la piste de la non-discrimination, et on buterait de nouveau sur le problème de qui peut agir en justice, et ce serait des associations du coup, mais pas des... Oui, mais... Oui, oui, c'est vrai. Mais il y a encore d'autres pistes, même en propriété intellectuelle, pour les actes dont j'ai parlé moi plutôt, pour les copies, il y a par exemple le droit des marques, les indications géographiques, ou peut-être même la concurrence déloyale et le parasitisme. Mais comme c'est, disons, ce qui relève plus de la propriété industrielle, donc d'une logique économique, finalement on retombe sur les mêmes problèmes. Est-ce que étendre ces outils économiques aux communautés, ça les pousse pas justement à capitaliser en fait leur identité et de nouveau rentrer dans la logique économique, même si ce sont des outils qui existent.
Merci beaucoup. Je crois qu'il y a encore une question au centre de la salle. Voilà, ce sera peut-être la dernière du coup.
Ce sera peut-être la dernière. D'accord. Bon. Merci. Donc Maximilien Fortier, élève conservateur du patrimoine. D'abord, merci pour vos deux interventions très intéressantes. Ma question ira peut-être sans doute plus sur l'appropriation culturelle et le droit d'auteur, notamment par rapport à la conclusion que vous faites justement à la fin sur le droit d'auteur comme étant la fausse bonne idée de protection. Mais au-delà de ça, je me pose la question du sujet. Qui peut être en face ? Qui peut faire cette réclamation ? Si tant est qu'elle existe, et notamment comment est-ce que la personnalité juridique peut s'incarner en France, et peut-être je pense à d'autres exemples qui sont notamment dans le monde anglo-saxon, dans le monde de la restitution, par exemple à NACPRA, comment est-ce que l'on désigne la communauté en tant que personnalité juridique, et peut-être aller au-delà de ça également, quelle est la légitimité de la personnalité juridique, notamment en reprenant un concept qui a été cité ce matin de Pierre-Rosan Vallon, qui à la fin justement de son livre Le Peuple, c'est pas absent, c'est...
Introuvable.
Introuvable, c'est ça, merci, pardon. Qui justement à la fin de son ouvrage, pour grossir le trait, dit plus ou moins que la personne qui parle au nom d'un peuple est forcément une personne illégitime, parce que cette idée de peuple est toujours à venir, ou alors qu'elle est déjà dépassée. Si j'ai été clair, oui.
Donc vous posez deux questions en fait. Est-ce que aujourd'hui, voilà. Si le...
Parce qu'en France actuellement, je crois qu'on ne reconnaît pas la communauté, à part peut-être avec le droit calédonien. Et quels sont les parallèles qui pourraient être faits dans d'autres régions du monde ? Comment désigner la communauté de manière juridique ? Et qui peut le faire ?
Alors, il y a par exemple, la convention UNESCO de 2003, que j'ai citée tout à l'heure, ne définit pas directement la communauté, mais il me semble qu'il y a eu des groupes d'experts, je parle sous le contrôle des spécialistes de la matière, des groupes d'experts qui ont défini le terme de communauté à travers comment l'entend la convention UNESCO de 2003, il me semble. Oui. Ah oui, il y a la convention de Faro et il y a la convention de Fribourg aussi, il me semble, sur la déclaration de Fribourg sur la communauté culturelle. Mais par rapport à la question de l'identification et de l'action en justice, vous demandiez ce qui se fait dans d'autres pays, par exemple. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui pourrait être une piste, qui a déjà été un peu importée en France, c'est ce qu'on appelle l'action de groupe, qui va permettre justement à des groupes qui n'ont pas la personnalité juridique d'agir au nom de ce qu'on appelle la théorie de la réalité, parce qu'ils ont des intérêts collectifs, le droit va reconnaître leur intérêt à agir en tant que groupe. Donc c'est quelque chose qui... C'est ce qu'on appelle la class action, qui vient des États-Unis, et ça a été déjà transposé en France, notamment en droit de la consommation. C'est assez récent, c'était en 2014, c'est la loi Hamon qui a fait ça, pour justement qu'un groupe de consommateurs qui a subi un même préjudice par rapport à un produit puisse agir contre un producteur ensemble sans que forcément ils aient une personnalité juridique. Mais par exemple dans notre domaine, donc des actions de groupe reconnues pour des communautés culturelles, ça n'a pas encore eu lieu en France. Et d'ailleurs, il y avait une tribu malaisienne qui avait voulu agir, je ne sais plus exactement pour quelle question, et la Cour d'appel avait considéré qu'il n'était pas recevable à agir parce que elle n'a pas appliqué cette théorie de la réalité et n'a pas admis donc l'action de groupe. Donc ça existe dans d'autres systèmes, notamment le système du common law. Donc oui, c'est une piste qui est envisageable, mais qui n'est pas encore suffisamment mobilisée en France, si vous voulez.
Merci beaucoup. Je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête là pour cette séance. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos...